Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Comment allez-vous sur notre radio préférée, Fréquence 7? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à partir avec moi dans le monde imaginaire des contes et des histoires? Quand je dirai « Il était une fois », vous saurez que tout est possible. Les arbres et les animaux parlent, les trésors et les bassesses humaines flirtent avec les êtres enchantés, quel que soit le pays où se déroule mon histoire. Aujourd'hui, nous partons... Vous allez deviner vous-même. Il était une fois un calife qui s'appelait Chazid. C'était le calife de Bagdad et par un bel après-midi d'été, il était paresseusement étendu sur un sofa. Après avoir dormi quelque peu, car la chaleur était accablante, le calife s'était réveillé de très bonne humeur. Il fumait une longue pipe de bois de rose en buvant par intervalles quelques gouttes de café que lui versait un esclave. Et tout en savourant chaque gorgée, il caressait d'un air satisfait sa barbe qui était fort belle. Bref, on voyait du premier coup d'œil que le calife était dans un état de béatitude parfaite. Dans ces moments-là, il était assez abordable et daignait même se montrer doux et bienveillant envers les simples mortels qui avaient affaire à lui. Aussi était-ce l'heure qu'avait adopté son grand vizir Mansour pour lui rendre sa visite quotidienne. Le grand vizir vint donc au palais ce jour-là, selon son habitude. Mais ce qui était rare chez lui, c'est qu'il avait l'air tout pensif. « Eh, d'où te vient cette mine d'envers, grand vizir ?» s'écria le calife étonné. Il ôta un instant de ses lèvres le bec d'ambre de sa pipe. « Seigneur, répondit le vizir en croisant les bras sur sa poitrine et en s'inclinant profondément, j'ignore si mon visage trahit malgré moi du dépit, mais je viens de voir en entrant ici un marchand qui étale de si belles marchandises que je me dépitais intérieurement, je vous l'avouerai, de n'avoir pas plus d'argent à dépenser. » Le calife, qui cherchait depuis longtemps une occasion d'être agréable à son grand vizir, pour lequel il avait une véritable affection, fit signe à l'un de ses esclaves d'aller chercher le marchand. Celui-ci fut rendu presque aussitôt que mandé. C'était un petit homme brun de visage. Il portait devant lui, soutenu par une courroie qui s'appuyait sur ses épaules, un coffre de bois de santal dans lequel étaient entassées toutes sortes de marchandises précieuses. Il y avait des perles d'ophir ajustées en pendant d'oreilles, des bagues d'or vert rehaussées de brillants que l'œil pouvait à peine regarder tant elles jetaient des feux, et puis encore des pistolets richement damasquinés, des coupes d'onyx, des peignes d'ivoire incrustés d'or et mille autres bijoux non moins rares et non moins enviables. Après avoir passé le tout en revue, le calife acheta pour Mansour et pour lui de magnifiques pistolets. Et de plus, pour la femme du vizir, un peigne d'argent ciselé, niellé et rehaussé d'une couronne de perles fines qui en faisait la chose du monde la plus riche et la plus belle à la fois. Comme le marchand allait fermer son coffre, le calife, qui ne pouvait en détacher ses yeux, aperçut un petit tiroir, le seul qui n'eût pas été ouvert, et il demanda s'il n'y avait pas encore là quelques joyaux. L'homme ouvrit le compartiment que lui désignait le calife et en tira une espèce de tabatière contenant une poudre noirâtre que recouvrait un papier chargé de caractères singuliers dont ni Chazid ni Mansour ne purent déchiffrer un seul mot. « Cette boîte me vient, dit le marchand, d'un colporteur qu'il a trouvé sur son chemin en allant à la Mecque. J'ignore ce que c'est. Mais elle est d'ailleurs tout à votre service si vous la désirez. Pour moi, je ne sais qu'en faire. » Le calife, quoique fort ignorant, entassait volontiers dans les armoires de sa bibliothèque toutes sortes de curiosités et de vieux parchemins. Il acheta la tabatière et le manuscrit et renvoya le marchand qui sortit à reculons en s'inclinant non moins profondément qu'à son entrée. Le calife contemplait tout joyeux son acquisition, mais il aurait tout de même bien voulu savoir ce que signifiait l'écrit qu'il tournait et retournait machinalement entre ses mains. « Ne connais-tu personne qui me puisse lire cela ?» dit-il enfin à son vizir. « Oh, très gracieux seigneur, je sais auprès de la grande mosquée un homme qu'on appelle Selim le savant. Il comprend, dit-on, toutes les langues. Ordonnez qu'on l'aille guérir, peut-être pourra-t-il expliquer ses caractères mystérieux. » Deux esclaves furent envoyés sur le champ à la recherche de Selim le savant, avec mission de le ramener sur l'heure. Selim, lui dit le calife aussitôt qu'il entra, on te dit fort versé dans la connaissance des langues. Examine un peu cet écrit et vois si tu peux le lire. Je te donnerai un habit de fête tout neuf si tu parviens à m'en expliquer le sens. Sinon, il te sera appliqué 50 coups de bâton sur la plante des pieds pour avoir usurpé le glorieux nom de savant. Selim s'inclina et répondit que ta volonté soit faite, maître. Puis il se mit à considérer attentivement l'écrit qui lui était soumis. Tout à coup, il s'écria « C'est du latin, seigneur, ou que je sois pendu !»« Eh bien, grec ou latin, dis-nous donc vite ce qu'il y a là-dedans, » dit le calife impatienté. Selim se hâta de traduire, et voici ce qu'il lut. « Qui que tu sois, tu trouveras cet objet. » Remercie Allah de la faveur qu'il daigne t'accorder. Celui qui respire une pincée de la poudre qui est renfermée dans cette boîte et dit en même temps « Mutabor », celui-là peut se métamorphoser à son gré en tel animal qui lui plaît et comprendre aussi les idées qu'échangent les animaux dans leur langage. Ensuite, s'il veut revenir à la forme humaine, qu'il s'incline trois fois vers l'Orient en prononçant le même mot, et le charme est rompu. Garde-toi seulement, ô toi qui tenteras l'épreuve, garde-toi de rire, tandis que tu seras métamorphosé. Autrement, le mot magique s'enfuirait irrévocablement de ton souvenir, et tu serais condamné à rester à jamais un animal. À mesure que Selim le savant avançait dans la traduction du papier kabbalistique, le calife sentait se développer en lui une joie qu'il avait peine à contenir. Après avoir fait jurer au savant de ne révéler à personne le secret dont il était possesseur, il se hâta de le renvoyer, mais non sans l'avoir fait revêtir auparavant d'une magnifique robe de soie, laquelle n'ajouta pas peu à la considération dont Selim le savant jouissait déjà dans Bagdad. À peine fut-il sorti, que le calife, s'abandonnant à sa joie, se dit « Voilà, voilà ce que j'appelle un fameux marché. Quel plaisir, mon cher Mansour, de se voir pouvoir changer en animal. Dès demain matin, tu viens me trouver. Nous allons ensemble dans la campagne. » Nous prisons dans ma précieuse tabatière et nous comprenons alors tout ce qui se dit et se chante, se chuchote et se murmure entre les bêtes dans l'air et dans l'eau, dans la forêt et dans la plaine. La nuit sembla bien longue à l'impatient calife. Enfin le jour parut et tout aussitôt, au grand étonnement de ses esclaves, le calife s'élança de sa couche. À peine avait-il eu le temps de déjeuner et de s'habiller que le grand vizir se présenta devant lui, comme il en avait reçu l'ordre, pour l'accompagner dans son expédition. Sans plus attendre, le calife glissa dans sa ceinture la tabatière magique, se saisissant le bras de son vizir après avoir ordonné à sa suite de demeurer en arrière, il se mit en route en compagnie du fidèle Mansour. Ils se promenèrent d'abord à travers les vastes jardins du palais. Mais en vain, et sans pouvoir rencontrer un seul être vivant sur lequel essayer leur magie. Finalement, le grand vizir proposa de pousser plus loin, jusqu'auprès d'un étang, où il avait vu souvent, disait-il, beaucoup d'animaux de toutes sortes, et particulièrement des cigognes, dont l'allure grave et les claquements de bec avaient toujours excité son attention. Le calife agréa avec empressement la proposition de son vizir et se dirigea aussitôt avec lui vers l'endroit indiqué. À peine arrivés sur le bord de l'étang, nos deux amis aperçurent une vieille cigogne se promenant sérieusement de long en large, en chassant aux grenouilles et en marmottant je ne sais quoi dans son long bec, et presque au même instant, ils découvrirent en l'air, à une très grande hauteur, un autre de ces oiseaux dont le vol paraissait tendre de leur côté. Je parierai ma barbe, gracieux seigneur, dit le vizir, que ces deux bêtes vont avoir tout à l'heure une belle conversation. Qu'en dites-vous, si nous nous changions en cigogne ? Soit, répondit le calife, mais avant tout, fixons bien dans notre mémoire comment on redevient homme. Rien de plus facile, dit le vizir d'un ton dégagé. Nous nous inclinons trois fois vers l'Orient en disant « mutabor ». Et je redeviens calife et toi vizir, poursuivit le calife, fort bien, mais ne va pas rire, au nom du ciel, sinon nous sommes perdus. Tandis que le calife parlait ainsi, il aperçut distinctement, planant au-dessus de leur tête et descendant peu à peu vers la terre, la cigogne qui ne leur était apparue d'abord que comme un point noir perdu dans l'espace. Incapable de résister plus longtemps à son envie, il tira vivement la tabatière de sa ceinture, il y puisa une large prise, la présenta à son vizir qui prisa pareillement et tous deux s'écrièrent « Mutabor !» Le mot magique était à peine prononcé que leurs jambes se ratatinèrent et devinrent grêles et rouges. Dans le même instant, les belles pantoufles jaunes du calife et celles de son compagnon firent place à d'affreux pieds de cigogne. Leurs bras se changèrent en ailes, leur cou s'allongea au-dessus de leurs épaules. Enfin, pour compléter la métamorphose, leur barbe s'évanouit et tout leur corps se couvrit d'un moelleux duvet. « Oh, vous avez là un bien beau bec, monsieur le grand vizir. Par la barbe du prophète, je n'ai jamais rien vu de ma vie de pareil. »« Oh, je vous remercie très humblement, » répondit le grand vizir en pliant son long cou. « Mais si je l'osais, je pourrais affirmer de mon côté que votre hôtesse, qu'elle me semble presque avoir meilleur air en cigogne qu'en calife. »« Oh, flatteur, » dit le calife, « la métamorphose ne t'a pas changé. »« Non, en conscience, » protesta le calife, « je suis le plus sérieux du monde, je n'ai dit que pure vérité. » Mais allons donc un peu, s'il vous plaît, du côté de nos camarades, et voyons enfin si nous savons vraiment parler cigogne. Tandis qu'il devisait ainsi, la cigogne aérienne avait atterri. Après avoir coquettement épluché ses pattes et lissé ses plumes à l'aide de son bec, elle s'avança vers la chercheuse de grenouilles, qui continuait toujours son même manège. Le calife et son vizir s'empressèrent de les rejoindre, et je vous laisse à penser quelle fut leur stupéfaction en entendant le dialogue suivant. « Bonjour, madame Longue-Jambe. Sitôt déjà sur la prairie ? Oh, mille compliments, cher Jolibec. Je viens de me pêcher un petit déjeuner et je serais fort honorée si vous vouliez bien le partager avec moi. Un quart de lézard, une cuisse de grenouille, vous agréeront peut-être ? Je vous rends grâce, je ne suis pas en appétit. Aussi bien suis-je venue sur la prairie pour un tout autre motif. » Je dois danser ce soir dans un bal que donne mon père et je voudrais auparavant m'exercer un peu à l'écart. » Tout en parlant, la jeune cigogne s'était mise à sautiller en décrivant à travers la prairie les figures les plus baroques. Le calife et le grand vizir considéraient tout cela les yeux écarquillés, le bec grand ouvert, sans pouvoir parvenir à se remettre de leur étonnement. Mais lorsque la jeune danseuse, en manière de bouquet final, se tint sur une seule patte, dans une pose de sylphide, le corps incliné et battant des ailes, tous deux alors n'y purent tenir. Un fou rire s'échappa de leur long bec, si puissant, si irrésistible, qu'ils furent un long temps avant de pouvoir le modérer. Le calife le premier parvint à reprendre son sérieux. « Vraiment, Voilà un spectacle que je n'aurais pas voulu manquer pour tout l'or du monde. C'est dommage seulement que ces bêtes stupides aient pris peur en nous entendant rire. Sans cela, bien sûr, elles allaient chanter. » Mais alors il revint en mémoire au vizir que le rire était interdit pendant la métamorphose sous peine de rester un animal à perpétuité. Et soudain ce souvenir apaisant son hilarité, l'air tout penaud, il fit part au calife de son inquiétude. « Ah, peste !» dit le calife, « par la Mecque et la Médine, ce serait bien une mauvaise plaisanterie si j'allais rester cigogne. Mais rappelle-toi donc un peu ce qu'il faut faire pour nous débétifier. Je n'en ai plus, moi, la moindre idée. Je crois que nous devons par trois fois nous incliner vers l'Orient et prononcer en même temps essayons toujours, cela nous reviendra peut-être. » Aussitôt les deux cigognes de saluer le soleil et de s'incliner tant et si bien que leur long bec labourait presque le sol. Mais, ô misère, le mot magique avait déserté leur mémoire. En vain, le calife s'inclinait et se réinclinait. En vain, Mansour s'épuyait à crier « Mu, mu, be, mu ». Ils avaient l'un et l'autre totalement oublié toutes les syllabes. Et voilà comment le malheureux Chazid et l'infortuné Mansour furent changés en oiseaux. Il y avait sur la terre un calife et un vizir de moins, et deux cigognes de plus.
Somewhere over the rainbow.
Voilà, il est déjà temps de nous quitter. J'espère que vous avez aimé cette histoire du calife cigogne. Si vous avez envie de réentendre cette histoire, vous savez que nous nous retrouvons tous les mercredis et tous les samedis à 16h. Merci Sylvain pour la technique. Et à bientôt de nos retrouvailles. En attendant, racontez-vous des histoires.